Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique. Notre invité aujourd'hui, c'est Henri Emmanuelli. Vous êtes député PS, ancien ministre du Budget, ex-secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, on va notamment beaucoup parler de la politique économique du gouvernement, bien sûr, du PS, à quelques jours de la clôture des États généraux. C'est samedi et surtout à 7 mois du Congrès. À mes côtés pour cette émission, Laure Breton pour Libération, Roselyne Fèvre pour France 24. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors avant de parler du Parti Socialiste, on va s'arrêter sur ce vote solennel cet après-midi à l'Assemblée nationale sur la Palestine. Les groupes socialistes, écologistes, PC, Front de Gauche ont voté cette résolution qui invite, je cite, le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit. La question qu'on se pose, c'est ce vote, à quoi ça sert en fait, puisque juridiquement ça n'a aucune valeur et que la reconnaissance d'un État, ça ressort quand même du domaine réservé du président.
Mais il ne faut pas vous demander à quoi ça sert, puisque M. Netanyahou a cru bon de réagir. Il faut croire que ça sert à quelque chose. Sinon, il aurait traité ça par le mépris. C'est, je crois, significatif, et ça s'inscrit dans un mouvement en Europe aujourd'hui. Il n'y a pas que le Parlement français qui fait ça. Le Parlement britannique l'a déjà fait, sur une initiative du Parti travailliste. La Suède est allée plus loin, puisque non seulement le Parlement l'a fait, mais le gouvernement l'a fait aussi. Et en France, je crois qu'il est important que le Parlement se manifeste sur ce sujet et dise que maintenant, ça suffit, que le moment est venu de reconnaître l'État d'Israël, l'État palestinien. Pourquoi ? Je rappelle d'abord que c'était un engagement de François Hollande pendant sa campagne électorale. Et je rappelle aussi que ça fait des années qu'on nous dit c'est trop tôt, on verra après, et puis il faudra conjuguer ça avec un processus de paix. Or, en réalité, on n'a pas le sentiment aujourd'hui que le processus de paix soit en marche. Et on a même la conviction que s'il n'y a pas une pression internationale relativement forte, le processus de paix a peu de chances de voir le jour.
Alors, je ne sais pas de quelle réaction de Benjamin Netanyahou vous parliez, mais effectivement...
Il a dit la semaine dernière, m'a fait réagir aussi d'ailleurs, du coup, il a dit que ce vote serait malvenu, était inopportun.
C'est une grave erreur. Oui.
Bon, ce qui est une erreur, voilà, parce que... Oui. Une grave erreur, oui, exactement.
Il a dit une grave erreur.
J'ai trouvé d'ailleurs inconvenant que le Premier ministre israélien se croit autorisé à caractériser un vote de l'Assemblée nationale.
Bon, en même temps, Benjamin Netanyahou, il y a une heure, a limogé son gouvernement, particulièrement à cause de deux ministres centristes qui jugeaient beaucoup trop critiques de sa politique. Et selon les experts, sa prochaine coalition gouvernementale, elle se ferait avec des ultranationalistes, des formations religieuses. Franchement, c'est pas très très bon augure pour des pourparlers de paix.
Non, c'est pas de bon augure pour les pourparlers de paix, mais justement, du coup, il faut qu'il y ait quand même une pression internationale pour faire savoir à ce futur gouvernement que je ne connais pas. Je vois à peu près ce qui s'est passé, qui protestait et qui entraînait la chute du gouvernement. Mais il faut que M. Netanyahou et le gouvernement israélien comprennent quand même qu'il y a des limites, et je pense que par moment, on franchit ces limites. Et ce conflit israélo-palestinien, il a des conséquences dans tout le Moyen-Orient, mais il en a aussi dans les pays occidentaux.
Laure Breton.
Pour revenir sur le vote du Parlement français, enfin en tout cas des députés français, vous avez pu voir que cet après-midi, comme disait Anissa, les socialistes ont voté pour, les Verts ont voté pour, les communistes votent pour. L'UMP, il y a 9 personnes qui se sont détachées, qui ont voté pour, contre l'avis de leur groupe. Est-ce que vous comprenez que certains disent c'est une bonne chose, mais on le vote pas parce que c'est présenté par les socialistes? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire de la politique au-delà d'appartenance partisane?
Je trouve ça très dommage. Je me souviens très bien du moment où Jacques Chirac et à l'époque de Villepin ont refusé d'engager la France dans le conflit irakien. Moi, j'ai dit publiquement que je les approuvais et que je les soutenais totalement. Donc, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition que sur des sujets comme ça, on doit, n'est-ce pas, se borner à une opposition de principe. Et je comprends notamment de la part de l'UMP que si on regarde ce qu'a été la politique traditionnelle avec des hauts et des bas, je parle pas de celle de M. Sarkozy parce qu'on avait du mal à suivre, mais traditionnellement, que ce soit De Gaulle, Chirac, Pompidou, etc., bon, quand même, il me semble qu'ils auraient dû voter, quoi, s'ils s'étaient souvenus qu'il y avait à l'origine un zeste de gaullisme dans leur famille politique.
Parce qu'il est forcément question de grande politique dans ce vote, hein, pour beaucoup d'observateurs, c'est aussi un moyen pour la majorité de retrouver de l'audience auprès d'une partie de son électorat. Mais Benoît Hamon, qui est un de vos amis, dit lui-même que c'est pour lui un des meilleurs moyens pour récupérer l'électorat des banlieues et des quartiers.
Non, il dit pas ça. Vous avez lu ça dans un. Vous avez lu ça dans un canard qui s'appelle Le Journal, ou un journal qui s'appelle Le Canard. Et bon. Non, les gens qui ont travaillé là-dessus, il y a eu Benoît Hamon, il y a François Long qui a beaucoup travaillé là-dessus, et Madame Guigou aussi qui a beaucoup pesé là-dessus.
Est-ce que,
et
en tout
contre
cas...
eux, et ça n'a pas été facile parce que on leur disait peut-être un peu du côté du Quai d'Orsay ou de l'autre côté de la Seine là, que c'était pas opportun, que c'était pas le moment, que le processus de paix était pas engagé, que ça ne facilitait pas les choses. Donc ils ont résisté à tout ça, ils ont convaincu.
Sans que ce soit
groupe.
Une manipulation, est-ce que ça vous semble opportun aussi?
Oui,
pour,
oui.
Pour adresser un signal à cet électorat.
Mais ça me semble opportun pour une raison tout simplement que vous voyez ce qu'est quand même la situation au Moyen-Orient. Moi, je regarde la politique d'Israël depuis longtemps parce que, pour des raisons personnelles, j'ai été à un moment donné un petit peu impliqué. Moi, je considère que les choses n'évoluent pas bien, qu'elles sont alarmantes.
Et qu'elles ont des conséquences jusqu'en France?
Qu'elles peuvent avoir des conséquences partout, mais surtout là-bas. Et qu'en plus, on se dit, mais ils sont partis pour des décennies de tragédies. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même que la raison l'emporte. Et c'est pas parce que M. Rabin a été assassiné un jour que toute l'espérance doit s'arrêter.
Mais est-ce que François Hollande, cet été, par exemple, sur ce fameux premier communiqué sur Gaza où il déplore uniquement les victimes israéliennes et pas les victimes palestiniennes, c'est un communiqué qui a fait polémique, est-ce qu'il a perdu des points dans cet électorat et est-ce cette résolution est une manière de les ramener au bercail socialiste?
Là, je pense qu'on est dans la méthode... une méthode pour faire de la politique qui relève quand même un petit peu de l'écume des vagues. Hein. Bon, je sais ce que pense François Hollande sur le sujet, je sais les engagements qu'il a pris pendant la campagne électorale, et moi si je devais lui refaire un reproche, c'est pas un communiqué un matin, c'est qu'à l'ONU, moi je pensais que la France allait voter pour, quoi. Et j'ai regretté qu'elle l'ait pas fait. Ça, c'est un acte. Le reste, franchement... on est dans le Zakouski, là.
Mais peut-être la question, c'est est-ce que la gauche peut se demander aussi pourquoi elle a perdu cet électorat-là?
Je pense, si vous voulez mon opinion... oui, vous la voulez d'ailleurs, puisque vous me posez la question. J'ai été très surpris moi-même le premier, mais je pense que le mariage pour tous a fait des dégâts énormes dans l'électorat musulman, pour appeler un chat un chat. Et j'ai été très surpris. Et à dire vrai,
ils ont été choqués,
Il y a eu des réactions assez fortes. Moi, je ne suis pas au contact de ce problème. Je suis élu d'un département où la question ne se pose pas, ou n'existe pas.
Mais, les Landes.
Oui, voilà les Landes. Mais toutes celles et ceux qui vivent dans au contact de ce milieu sont revenus en disant les réactions sont extrêmement vigoureuses, extrêmement fortes. Bref, et moi qui suis un laïc complet, alors total, je me suis dit, oh, ça va pas recommencer, quoi. Hein. On a mis des siècles avec l'autre religion pour sortir d'un certain nombre de choses. Que Dieu, auquel je ne crois pas, nous préserve de revivre ça.
Mais peut-être pour rebondir sur la question d'Anissa, sur le fait qu'il y a des arrières, certains pensent que, notamment à droite, qu'il y a des arrière-pensées politiques ou électoralistes, il faut quand même voir que la résolution a été déposée par Bruno Le Roux, par Elisabeth Guigou et Benoît Hamon, et tous sont élus de circonscriptions où il y a beaucoup de musulmans.
Mais c'est pas vrai, moi j'ai été impliqué aussi, j'ai participé. Celui qui est à la commission des affaires étrangères a été aussi un des animateurs et presque à l'origine, s'appelle Dufaux, et il est député des Landes.
En tout cas, Nicolas Sarkozy, lui...
Il s'appelle Jean-Pierre Dufaux, et il est représentant des socialistes à la commission des affaires étrangères, c'est lui qui a porté la résolution depuis le début, au cas où ça aurait échappé. Mais comme ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, des
pour vous, pas d'arrière-pensée politique.
Des arrière-pensées politiques, mais attendez, à ce moment-là, on peut coller les arrière-pensées politiques sur tout. sur tous les sujets. Ça veut dire quoi, arrière-pensée? On pense, on agit. Là, je pense que si M. Netanyahou a réagi, c'est parce que ça a une certaine importance, en tout cas pour lui et pour le gouvernement israélien. Et donc à partir de là, à la limite, le reste, qu'est-ce que ça peut faire?
Donc Nicolas Sarkozy, lui, s'était prononcé contre, contre officiellement, à peine élu à la tête de l'UMP. Bon, comment vous jugez sa campagne, finalement, au regard de son score de dimanche soir? Je rappelle, 65%.
64,9. Ne le rajoutez pas, s'il vous plaît.
Oui.
Donc moi, je trouve tout ça plutôt affligeant, quoi. Je trouve tout ça plutôt affligeant parce que je n'ai jamais douté une seconde qu'il reviendrait, que le jour où il a dit « je quitte la politique », je me suis dit « il a tous les culots ». J'ai même été un peu admiratif qu'il arrive à tenir 2 ans et demi, parce que je me disais, pour lui, ça doit être considérable, n'est-ce pas? De piétiner pendant 2 ans et demi, ça doit être très long, quoi. Et je trouve ça affligeant, parce que je revois le même empire, je dirais, celui que j'ai connu avant 2007.
Empire sur quoi?
Dans l'outrance, dans l'exagération, dans le n'importe quoi. On a beaucoup, là aussi, glosé sur le fait qu'il avait cédé devant une salle. Mais comme si c'était nouveau, il a fait ça sur tous les sujets. Il nous a même proposé d'abattre...
Préciser sur la loi Taubira.
Il nous a même proposé, vous souvenez-vous, en pleine crise, il allait abattre le capitalisme. Alors bon... Non, je pense que c'est quelqu'un qui est un activiste. C'est un activiste de tempérament. C'est quelqu'un qui cherche le pouvoir pour le plaisir de l'exercice du pouvoir. Il a des convictions, contrairement à ce qu'on dit, mais elles sont plutôt très conservatrices. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour la France. Et je pense que l'UMP est en danger.
Vous ne faites pas partie de ceux comme François Rebsamen qui disent que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie puisque le gouvernement pourra avoir un débat projet contre projet.
Oui, oui, bon, tout ça, ça fait partie des mots convenus. Le projet de M. Sarkozy, vous savez, pour l'attraper, le projet de Sarkozy, il va falloir courir vite, hein, parce que comment on fait pour courir après un lapin qui fait des zigzags tous les matins, hein? Il va falloir qu'on ait un projet zigzag, nous aussi, alors du coup, non.
Comment avez-vous lu sa proposition de faire un comité d'anciens premiers ministres au sein de l'UMP?
J'aurais réagi exactement comme Alain Juppé. J'aurais pas pensé au chapeau à plumes, mais Naftaline, j'y aurais pensé. Oui. Bon, ça fait pas très... Mais c'est ça, c'est une
question. C'est quoi la manip derrière? C'est les ringardiser pour après dire, voyez, ils veulent pas,
absolument,
ils veulent pas rassembler.
Pour les mettre dans un coin, pour les intégrer, pour les... À mon avis aussi pour les rabaisser, hein, parce que ça veut dire aussi vous êtes des excites, quoi. Vous êtes des has-beens.
Vous parlez d'un lapin qui fait des zigzags pour évoquer sa campagne. Mais vous n'avez pas l'impression?
C'est de courir comme un canard à qui on aurait coupé la tête. Vous savez, dans les Landes, on élève 2 millions de canards par an pour faire du foie gras. Alors, on va pas souvent passer des canards avec la tête coupée. Mais lui, c'est l'impression qu'il me donne.
Bon, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une ligne qui...
Un jour dans le zag. L'essentiel, c'est pas où je vais, c'est que je cours. L'essentiel, c'est pas ce que je dis, ce que je fais, c'est que je puisse accéder de nouveau au pouvoir. Bon.
À la lumière de ce qu'il a fait pendant 2 mois, là, septembre et octobre, vous n'avez pas eu l'impression qu'il y avait une ligne qui se dessinait et que c'était...
Il est de plus en plus conservateur. Bon, ben, si, bien sûr, il refuse l'alliance avec le centre. Il va essayer de refaire ce qu'il a fait en 2007, c'est-à-dire parti, hein. Essayer de siphonner la partie de l'électorat du Front National. Sauf que, une fois ça avait déjà fait des dégâts, 2 fois ça peut faire des catastrophes démocratiques, quoi.
Alors justement sur le Front National qui était en congrès ce week-end, Marine Le Pen y a réaffirmé être sûre d'être au deuxième tour de la présidentielle. Alors sur le poids grandissant du FN, on va écouter Benoît Hamon, c'était il y a un peu plus d'un mois sur RFI.
Et cette politique, non seulement... n'a pas de résultat sur le plan économique, mais de surcroît parce qu'elle réduit les capacités d'intervention de la puissance publique, sa capacité à mettre en œuvre la justice sociale et l'égalité, elle menace la République et c'est la préparation tout droit, comme on s'y prépare pour 2017, d'un immense désastre démocratique. C'est-à-dire, non seulement l'arrivée de Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles sans coup férir, mais la menace que demain, elle dirige ce pays.
Alors Henri-Emmanuel, est-ce que vous pensez comme Benoît Hamon que c'est la politique économique du gouvernement qui prépare l'arrivée du Front National au pouvoir?
Non, moi je pense que le terreau principal du Front National, c'est effectivement le chômage, c'est la dégradation de la situation sociale consécutive à la dégradation de la situation économique. Je confirme que sur le terrain, la situation se dégrade beaucoup. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de cas insolubles. Vous savez, la permanence d'un parlementaire, on entend souvent dire les députés sont loin des gens. Ben, je peux vous dire que hier, j'ai passé l'après-midi à signer 7 parapheurs. Et sur chaque parapheur, il y avait 20 lettres. Et c'était tout des cas sociaux. Alors, on n'est pas loin, on est en plein dedans. Et là, on voit presque physiquement la dégradation continue de la situation et la multiplication des cas insolubles, des gens qui arrivent avec des revenus de 900 euros, sauf que ils ont 560 euros de loyer, plus deux enfants à charge, beaucoup de femmes seules avec des enfants élevés, souvent sans qualification professionnelle. Donc on voit se dégrader, y compris des gens qui viennent maintenant demander des bons pour aller au restaurant du cœur ou pour nourrir la famille. Bon, donc oui, ça c'est évident, mais il y a pas que ça.
C'est pas la dégradation aussi des partis politiques.
Il y a pas que ça.
Et puis surtout ce qu'elle appelle l'UMPS.
Il y a aussi
dans le fond bonnet blanc et blanc bonnet, ce que disaient à l'époque les communistes.
Il y a la dégradation du clivage politique, enfin plutôt la disparition progressive du clivage politique. Il y a l'effondrement des corps intermédiaires. Il y a le recul, alors là on va peut-être me trouver contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais de l'influence religieuse, il y a tout ça. Il y a aussi des comportements qui sont de moins en moins admissibles et qui sont de plus en plus médiatisés, et donc du coup, ils sont de plus en plus inadmissibles parce qu'ils sont vus alors qu'avant ils n'étaient pas vus.
Pensez à quoi ?
Je pense des comportements, de l'entre-soi dans certaines catégories, il y a des montants de rémunération qui choquent.
Vous pensez à quoi quand on parlait d'entre soi, Jean-Pierre Jouyet et François Fillon, qui est jeune ensemble?
Je pense qu'il y a, oui, dans notre pays, un entre-soi de
bourgeoisie d'État
dans les élites, je dirais ça plus largement, dans la mesure où il est aujourd'hui médiatisé, fait des ravages, oui, dans les cervelles, dans les cerveaux, dans les esprits, des comportements, des manques de responsabilité qui sont assumés. Bon, ouais, il y a tout un tas de choses. Il y a pas que, mais quand même, ce qu'on peut constater, c'est que toutes ces choses qui ont toujours existé, qui existent,
ça se voit plus aujourd'hui.
Voilà. Dès que ça va pas, c'est l'histoire de la mer qui se retire, quoi. Quand la mer se retire, on voit les récifs, n'est-ce pas? Et là, elle se retire, et donc le Front National, il surfe sur quoi? Mais il surfe à la fois sur les difficultés des gens et sur leur désenchantement. C'est indissociable. Et il y a de fortes chances que Madame Le Pen soit au second tour. Mais ce que je crois, en revanche, je serai un peu plus modéré que ce que j'ai entendu. Je pense que si les Français, par agacement, par énervement, parfois par colère, trouvent du charme au Front National, en revanche, je suis pas sûr qu'ils soient tout à fait disposés à donner le pouvoir à Madame Le Pen. Mais il faut pas prendre ce risque. Et il faudrait réagir, oui.
Il faudrait réagir comment, Jean-Christophe Cambadélis, très rapidement, mais Jean-Christophe Cambadélis annonce une cellule anti-FN au Parti Socialiste.
Oui, mais ça, écoutez, ces questions-là. Je crois pas que ce soit une cellule anti-FN, je m'excuse, j'ai pas vu, mais je voudrais pas lui faire de peine. Mais ce n'est pas la première cellule anti-FN. Et puis, c'est pas une question de rationalité. Les gens, écoutez, dernières élections, moi j'ai vu quelqu'un dans les rues de Mont-de-Marsan qui collait une affiche du Front National, qui est reconnu un ancien militant du PS, de la section de Mont-de-Marsan. Alors comme j'ai parfois mauvais caractère, je me suis arrêté net, j'ai baissé la vitre, et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me regarde et il me dit, mais t'en fais pas Henri, je voterai pour toi au second tour. Voilà où on en est, quoi.
Eh bien, c'est sur cette anecdote que s'achève la fin de cette première partie de Mardi Politique avec Henri Emmanuelli, député PS, ancien ministre du Budget, ex-secrétaire du Parti Socialiste. On se retrouve dans quelques minutes, juste après les informations.
Politique en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique, deuxième partie avec Henri Emmanuelli, député PS, ancien ministre du budget, ancien patron de la rue de Solferino, Laure Breton de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors, cette semaine est aussi marquée par une mobilisation des chefs d'entreprise. Premier cortège de patrons dans la capitale depuis 15 ans, c'était hier. Le MEDEF, la CGPME et l'UPA qui s'affichent ensemble ce mercredi à Lyon. Des patrons qui appellent à décadenasser l'économie. Est-ce que vous comprenez, Henri Emmanuelli, ne serait-ce qu'en partie leur colère?
Non, s'il s'agit de dire qu'il y a beaucoup trop de complications administratives, de réglementations, je peux dire aux patrons que les présidents de collectivités locales vivent le même sort et qu'ils sont du même avis. En revanche, cette espèce de ritournelle, de rituel classique de la politique française, n'est-ce pas, où le patronat explique qu'il est toujours, quoi que l'on fasse par ailleurs, victime, moi je trouve ça un peu fatigant, quoi. De même que j'ai trouvé fatigant ou vraiment affligeante la querelle sur ceux qui aiment les entreprises et ceux qui les aiment pas. Moi j'aime les entreprises qui innovent, qui investissent et qui embauchent. J'aime pas les entreprises qui n'investissent pas, qui licencient.
Vous pensez à Manuel Valls?
Ou qui distribuent des dividendes, oui, par exemple, oui. Donc, tout ça, ce sont des querelles stupides. Aujourd'hui, le gouvernement fait un effort de 40 milliards d'euros en direction des entreprises, sur lequel je suis pas d'accord, d'ailleurs, tout à fait, comme vous le savez par ailleurs. Mais quand même, il le fait. Il a fait un tas de choses. J'avais envie de tweeter cet après-midi en disant « Ah vraiment, ça valait la peine, quoi. »
Alors, je les trouve un peu irresponsables. Quand le Premier ministre s'est mis à dénoncer les provocations du patronat pas à la hauteur,
Je les trouve irresponsables. Et encore une fois, mais ce pays n'arrive pas à sortir d'un certain nombre de rengaines. Avant, il y avait l'agriculture, ça a eu payé. Pour celles et ceux qui ont connu Fernand Reynaud, vous étiez pas nés. Après, bon, il y a les entreprises mal aimées. Ah bon, on ne sort pas des clichés. C'est grotesque ou quoi?
Alors, mais les torts sont partagés.
Les entreprises aujourd'hui devraient avoir un souci. C'est, vu l'argent n'est pas cher du tout, c'est d'investir. Le problème numéro un de ce pays, c'est l'investissement. Et si j'ai pas été d'accord, et je suis toujours pas d'accord, avec la façon dont a été fait le CICE, c'est parce qu'il était dispersé global.
Il est mal ciblé, on donne de l'argent à la Poste.
Alors qu'il avait, voilà.
Parce que Bruno Leroux, ce matin, a menacé.
Il a fait des dépôts à tout le monde, d'ailleurs. Il aurait fallu cibler sur l'investissement. Et j'ai proposé aux dernières discussions budgétaires un amendement voté signé par 40 parlementaires, ils n'étaient pas tous des frondeurs, disant on va créer, moi je me souviens d'avoir créé l'impôt crédit recherche, n'est-ce pas, en 1984,
vous étiez au budget.
Et je souhaitais qu'on crée maintenant le crédit impôt investissement. Le gouvernement n'a pas voulu, bon ben très bien. D'ailleurs on m'a pas expliqué pourquoi, c'est pour ça que je me suis abstenu, parce qu'on a été infoutu de me dire pourquoi on n'en voulait pas. Parce que moi j'ai dit le problème numéro un, il est là, c'est l'investissement. Et le reste, bon alors, il y a trop de paperasse, il y a trop de charges, il y a trop de... On connaît la rengaine.
Bruno Leroux, le patron des députés socialistes, menaçait ce matin de remettre en cause finalement les baisses de charges. Est-ce qu'il a eu raison de se mettre en colère?
Mais moi j'ai pas envie de les menacer, j'ai envie de dire, je sais, parce que quand même... avec la responsabilité qui est la mienne à la présidente de la commission d'assurance des dépôts, j'en vois des patrons, et plutôt des grands que des petits, ils sont pas tous pareils. Donc j'ai pas envie non plus de les enfermer dans une catégorie, là, les patrons seraient ceci ou pas plus que les entreprises, vous serez cela. Mais je leur dis, écoutez les gens sérieux, quoi. Sortez un peu du discours. Je pense que M. Gattaz n'est pas à la hauteur de ses responsabilités.
Voilà, il y a un problème Gattaz, comme le dit Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture.
Il y a un problème Gattaz.
Mais est-ce que vous trouvez...
Il fait de la politique, mais alors d'une manière surannée, quoi.
Et vous venez de
franchement,
dire, vous
je préférais le père, quoi.
Vous connaissez le monde de l'entreprise, parce que
oui, je avec le connais la Caisse un des dépôts. Peu, oui. Mais je le connais aussi, j'ai eu une vie antérieure professionnelle.
Vous avez chez Edmond Rothschild.
Voilà.
Donc, est-ce que ce divorce tout de même entre le monde de l'entreprise et les patrons n'est pas grave? Même si vous dites que c'est récurrent, qu'il y a des méchants patrons de...
Je pense qu'il n'y a pas plus de divorce aujourd'hui que hier ou avant-hier, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais de la politique. Ça fait 30 ans que j'en fais ça.
C'est quoi, c'est de la mise en scène?
Je me souviens d'un jour, Philippe Séguin venant se plaindre, n'est-ce pas, qui m'avait succédé à la présidente de l'Assemblée nationale, en se plaignant en disant, ce qu'on a fait pour les patrons, regarde comment ils réagissent. Je lui ai dit, mais tu as tort. C'est un discours séculaire. Ils vont pas sortir du discours séculaire comme ça du jour au lendemain.
Mais on a quand même l'impression que c'est eux l'opposition en ce moment. Jusqu'à maintenant, la droite vous a quand même pas mis énormément de bâtons dans les roues sur la voie du projet contre projet. Alors que Gattaz, il déroule un projet.
C'est-à-dire que la droite, excusez-moi, mais elle avait d'autres soucis, quoi. Hein, dont elle était occupée ailleurs, je dirais. Mais le projet de M. Gattaz, mais c'est même pas un projet, si c'était un projet encore. Mais c'est toujours la même ritournelle. Tout ce qui va pas, c'est à cause du coût de la main-d'œuvre, c'est à cause du code du travail. Il s'est pas aperçu qu'on distribuait plus de dividendes chez nous que chez les autres. Il s'est pas aperçu que l'investissement privé avait réfléchi. Il a l'air de toujours pas savoir que l'investissement public est un déclencheur de l'investissement privé. Donc, on a vraiment affaire à quelqu'un qui récite un catéchisme suranné, quoi.
Mais par exemple, la dernière loi Hamon, là, où prévenir le comité d'entreprise pour vendre
pourquoi aucun média français n'est capable de dire que ça existe en Allemagne déjà depuis des années et que personne n'en parle.
D'accord, bon, c'est une bonne chose.
Vous voyez, ou pas non, je mais, peux le dire. Quand même.
Comment, six mois avant, une entreprise peut savoir qu'elle va vendre?
J'ai lu partout. C'est une catastrophe. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que chez nos voisins d'Outre-Rhin, ça se pratiquait, c'était pas une catastrophe. Voilà. Et c'est pour tout pareil. Les seuils, c'est pareil. En Allemagne, les seuils, c'est à 5 personnes.
Les seuils sociaux.
C'est pas 11. Les seuils sociaux, c'est à 5 personnes.
Pour prendre des décisions.
C'est pas 11. Alors, chez nous,
il n'y a pas de projet de loi.
Chez nous,
ils ont alors, faire sauter les seuils sociaux.
Pour dire la vérité, en Allemagne, c'est à 5 personnes, mais c'est pas très pratiqué. En fait, la loi, c'est ça. Bon. Et donc, on est sans arrêt, y compris dans le commentaire. On est dans la caricature, on est dans les schémas préétablis. Et on n'en sort pas.
Alors passons à un sujet qui fait beaucoup discuter dans la majorité chez les syndicats aussi, le projet de loi Macron sur l'activité qui va être présenté dans 8 jours au Conseil des ministres. Il y a une des dispositions qui fâche beaucoup de députés socialistes, elle concerne l'extension du travail dominical. Certains députés disent d'ores et déjà, même si on n'a pas encore le contenu, qu'ils iront voter non. Quelle est votre position là-dessus?
Bah, je voudrais dire amicalement à Emmanuel Macron que je ne comprends pas ce genre de disposition. D'abord parce que le patronat lui-même dit il y aura 40 000 à 100 000 emplois. C'est pas vrai. Il vient d'avoir une expérience au centre de Marseille où on a ouvert le dimanche et où la chambre de commerce de Marseille dit elle-même c'est un échec, ça n'a rien donné. Bon, ensuite il y a des études beaucoup plus sérieuses que celles du bureau d'études du MEDEF qui disent à la limite peut-être 20 000 emplois et encore c'est pas sûr. Bon, donc qu'est-ce qu'on va rechatouiller là aussi, n'est-ce pas, ce sujet du travail du dimanche, en faisant croire que si, comme si c'était le problème. Moi, mon problème dans les Landes, c'est pas le travail du dimanche, c'est un département touristique qui fait 20 millions de nuitées par an. Je le dis à Monsieur Fabius, au passage, qui a l'air de penser que pour le tourisme, c'est vital. Hein.
Oui, qui a redit qu'il fallait un assouplissement des horaires, des ouvertures du commerce.
Mais sur les professions...
Dans les raisons touristiques, ouais. Bon. Deuxièmement, non, le pouvoir d'achat des gens n'est pas extensible. Il n'est pas extensible. Troisièmement, oui, je pense que les gens ont droit à un break dans la semaine. Et ce que je n'aime pas, si j'en crois ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas vu le projet de loi encore, mais le coup de « ce sera réservé aux volontaires », alors ça non. Ça non. Ce genre d'hypocrisie, non.
Il n'y a surtout aucune contrepartie pour les entreprises de moins de 20 personnes.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, non. C'est pas
vous
sérieux.
Ne croyez pas à la possibilité du volontariat dans les petites entreprises.
Alors qu'il y a des sujets sérieux, des réformes importantes à faire, qu'on aille, n'est-ce pas, rechatouiller ou réexhumer des débats théoriques qui sont sans efficience politique, économique, pardon. Je ne pense pas que le problème soit dans le code du travail, je ne pense pas que le problème soit du travail du dimanche, je pense, je le redis pour la 10e fois là ce soir, c'est l'investissement. C'est la coordination, c'est le financement de la recherche.
C'est qui le on dont vous parlez sujets. C'est François Rebsamen, le ministre du Travail, qui veut changer le mode d'indemnisation des chômeurs. C'est Manuel Valls quand il donne son interview au Nouvel Observateur.
Je ne pense pas, je le dis très tranquillement, je ne pense pas que ce soit de l'économie, ça s'appelle de la politique. Ça. Mais à la limite, c'est de la politique un peu regrettable, hein, parce qu'elle n'est pas toute neuve, si j'ose dire. Moi, on me traite de passéiste. Et eux se targuent d'être réformistes. Ben moi, je vais leur suggérer des réformes. Pourquoi ils n'ont pas fait la réforme fiscale? On en a besoin. Notre système fiscal, il est complètement disloqué. Pourquoi on ne fait pas la vraie réforme? Celle qui serait cardinale pour la compétitivité de notre entreprise, dont M. Gattaz ne parlera jamais, et dont malheureusement on ne parle pas non plus à Bercy, c'est la modification de l'assiette des cotisations sociales. Aujourd'hui, l'ensemble de nos financement social repose sur la feuille de paie, enfin une grande partie. Il y a la CSG qui est venue en diminution. Mais ça fait des années on attend cette réforme. Moi, je l'ai fait inscrire au programme du PS en 97. On est en 2014. Je constate que tous ces grands réformateurs, tous ces esprits modernes, mais comme par hasard, j'ai envie de dire non, c'est pas du côté de la réforme qu'ils regardent. C'est du côté de la régression. Parce que réforme, pour une femme ou un homme de gauche, ça veut dire plus ou mieux. En aucun cas, ça ne peut vouloir dire moins ou pire.
Alors, sur les professions libérales, Henri Emmanuel, c'est une loi pour introduire de la concurrence. Tout à l'heure, vous parliez du pouvoir d'achat, donc faire baisser les prix, faire sauter le monopole des notaires, des pharmaciens, etc., etc. Pourquoi pas des taxis ? Enfin, un peu la loi Attali, quoi. Est-ce que ça, c'est une bonne loi ? Et d'abord, est-ce que vous la voterez ?
S'il y a le dimanche, s'il y a les seuils, s'il y a des plaisanteries sur le... revenons un instant.
La flexibilité.
Oui, la flexibilité du travail. S'il y a des choses désagréables sur la flexibilité du travail, je ne la voterai pas. L'histoire des professions libérales,
maintenant,
pour répondre. Ouais. Ah là, je peux voter non.
C'est une loi ordinaire.
Ah là, je peux voter contre.
C'est
là.
Pas une loi budgétaire.
C'est pas le budget. Je peux voter contre. Oui, je ne serai sûrement pas le seul.
Oui.
Parce que j'ai prévenu, en plus. J'ai dit, écoutez, hein, arrêtez de faire de la provocation, j'appelle ça de la provocation politique, moi.
Mais là, la Commission européenne dit qu'elle va regarder très précisément ce qui se passe sur cette loi Macron.
Je voudrais répondre d'abord sur les professions libérales. Sur les professions libérales, il y a sûrement des choses à faire, mais il faut faire attention aussi. Vous savez, je suis pas très inquiet, parce que je pense que le gouvernement soit beaucoup moins allant sur les monopoles dont vous parliez à l'instant que sur le code du travail.
Ouais.
Donc je suis moins inquiet de ce côté-là. Pour revenir à la Commission européenne.
Qui dit qu'elle regardera attentivement le contenu de la loi Macron pour être plus ou moins indulgente vis-à-vis des déficits français.
Je vais dire
français.
Quelque chose de très désagréable, ce sera sur votre antenne, je m'en excuse par avance. Mais les impériums de la Commission européenne, hein, monsieur Juncker, qui après avoir été Premier ministre de la fraude fiscale, va devenir président de la déflation, je pense qu'il faut les regarder avec beaucoup de distance, les impératifs de la Commission européenne.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Europe de la relance est en train peut-être de se mettre en place ? La BCE a annoncé qu'elle allait racheter les dettes de l'État et la Commission fait feu de tout bois pour cette relance.
Ce qui s'est passé, c'est qu'après les années de glace trichée, n'est-ce pas ? Je dirais ça comme ça. Les années glaciaires du règne de M. Trichet sur la Banque Centrale Européenne, heureusement, M. Draghi a compris qu'il fallait lâcher du lest et qu'il fallait faire une politique très semblable finalement à ce qu'a fait, ce qu'ont fait les États-Unis au moment de la crise, c'est-à-dire une politique monétaire libérale, une politique monétaire souple. Et il a pris des mesures qui ont fait baisser l'euro, c'est déjà un atout, il est aujourd'hui beaucoup plus bas qu'il était il y a 3 mois, et c'est bon pour nos exportations et la croissance, mais qui fournit également des liquidités aux banques, en quantité importante, et qui s'apprête à franchir le pas pour éventuellement fournir aussi aux entreprises. Mais ça ne suffit pas, il faut investir. Parce qu'aujourd'hui, il y a surliquidité. Vous savez combien l'État français paie son argent à 10 ans ? Aujourd'hui, 1,1% aujourd'hui, à 10 ans. Hein ? Alors tous les futurs prix Nobel d'économie sur les plateaux de rédaction qui nous parlent de la pression des marchés ne doivent jamais avoir téléchargé l'application Bloomberg qui leur donnerait le taux des OAT à 10 ans qui la permettrait d'éviter de dire ce genre de bêtises. Mais non, c'est la France, la pression des marchés. La pression des marchés aujourd'hui,
ça pas duré,
elle est plutôt très détendue. Eh oui, mais on nous dit ça n'a pas duré, mais elle baisse en continu. On était à 2,56, madame. Au mois de février, on est à 1,1 aujourd'hui.
Henri
Et on
Emmanuel,
était à 0,9 hier.
Il nous reste plus beaucoup de temps.
Oui.
J'aimerais bien qu'on dise un mot
oui.
Du Parti Socialiste. On a 7 mois du Congrès, mais les grandes manœuvres démarrent. Vous disiez à la rentrée politique, Faout, que pour vous, le Parti Socialiste était en risque d'éclatement. Est-ce que vous le pensez toujours ?
Oui, je pense que si ce qu'on appelle les sociaux-libéraux aujourd'hui, qui est une façon de s'exprimer, sûrement pas tout à fait juste à 100%, on a eu appelé ça dans une période antérieure la deuxième gauche. Et aujourd'hui, il y a des sociaux-libéraux qui ont remplacé la deuxième gauche à ceci près, que je le précise toujours. Les gens de la deuxième gauche étaient des militants politiques. Je ne suis pas sûr que les sociaux-libéraux le soient. J'ai dit les sociaux-libéraux sont les idiots utiles de la droite. C'est-à-dire qu'on essaie de leur faire le boulot notamment sur le code du travail, notamment sur le travail du dimanche, etc., que la droite n'a osé jamais faire elle-même.
Mais est-ce que...
Et ils sont assez, à mon avis, assez incohérents politiquement pour le faire. Si cette ligne-là essaie de passer en force, oui, il y aura un risque d'éclatement pour le Parti Socialiste, parce que ce n'est pas la ligne de la majorité du Parti Socialiste, ce n'est pas la ligne de la majorité de la gauche française. Donc quand je vois des provocations du genre « il faut s'allier avec le centre, il faut flexibiliser le travail, il faut faire des réformes, et les réformes en question sont comme par hasard la régression », oui, je m'inquiète et je dis « attention ».
Donc la ligne de François Hollande n'est plus majoritaire aujourd'hui au Parti
Attention.
Socialiste.
Attention, écoutez, vos interprétations, vous les signez, n'est-ce pas, vous les signez.
Mais
je ne suis pas sûr que ce soit la ligne de François Hollande.
Est-il une ligne
et j'ai envie de lui reprocher. Je l'ai fait publiquement, d'ailleurs. J'ai dit, pourquoi laisse-t-on faire ce genre de provoque ? Pour être au second tour de la présidentielle en 2017, ce sera très difficile. Mais il y a un impératif, c'est de rassembler la gauche. Donc toute politique qui divise la gauche est une politique dangereuse.
C'est pour ça que vous apportez votre imprimatur à un collectif comme Vive la Gauche, mais que vous n'allez pas à leur réunion, par exemple ?
Je ne suis pas allé à leur réunion pour des raisons tout à fait personnelles. Je ne sais pas si je posais vos questions dans telle, mais j'avais promis à une famille d'honorer la mémoire d'une jeune femme tuée en coopération en Afrique il y a 2 ans, et je ne pouvais pas y être, mais sinon je serais venu.
Mais les anciens ministres comme Benoît Hamon, comme Aurélie Filippetti, qui y conspuent finalement la ligne actuelle du gouvernement, vous trouvez que ça fait avancer le débat et ça doit déboucher en une contribution ou en une motion en vue du Congrès ?
Je ne suis pas pour conspuer la ligne du gouvernement, moi je ne l'ai jamais conspuée. Je suis pour la règle, je vous ai expliqué tout à l'heure sur le CICE pourquoi je n'étais pas d'accord, pour des raisons concrètes. Pas pour des raisons théoriques ou idéologiques. De la même manière, je ne pense pas que la ligne de François Hollande soit celle du social-libéralisme, ou alors il nous l'a caché très 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 longtemps. Et je pense qu'en tout cas, il sait que stratégiquement, ce serait une erreur très lourde, et dont la gauche aurait beaucoup de mal à se remettre.
Est-ce que François Hollande est en situation de se représenter ou est-ce qu'il n'est...
Tiens donc, revoilà la présidentielle. Alors là, je vais vous chanter une chanson en berne.
Au gouvernement, on a déjà entendu des appels à une primaire.
Mais écoutez, franchement, ça aussi, je vous parlais tout à l'heure des catéchismes, n'est-ce pas, de la France. La présidentielle... Alors en même temps, c'est facile de parler à la présidentielle parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup bosser. Il suffit de poser des questions de qui sera candidat, sera-t-il candidat, sera-t-il au premier tour de...
Mais est-ce qu'à 13% de popularité, on a encore une autorité politique ?
En 2 ans, on verra. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile. Si on prenait la configuration d'aujourd'hui, là, ça aurait peu de crédibilité. Vu la vitesse où vont les situations politiques, où on sera dans 2 ans, moi, je ne sais pas. J'ai déjà vu des situations politiques se retourner en 15 jours. Il fut une époque où il fallait 2 ans, puis après c'est passé à 1 an, puis après à 6 mois, puis après à 1 mois, puis maintenant c'est 15 jours et parfois la semaine.
Mais vous,
parfois même dans la semaine, ça bouge. Donc, je vous ai dit, pour être au second tour, faut rassembler à gauche. Pour rassembler à gauche, il faut pas faire une ligne qui la divise. Et la ligne sociale libérale, elle est minoritaire, elle divise la gauche. Donc, elle n'a pas à être soutenue. Et si, prochain congrès, certaines ne le comprennent pas, moi, je pense qu'ils seront battus. Mais si par malheur, ils étaient gagnants, il y aurait éclatement, parce qu'il y aurait une énorme minorité qui ne l'accepterait pas.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, Henri Emmanueli. Je rappelle que vous êtes député PS, ex-patron de la rue de Solferino. Merci à nos partenaires France 24 et Libération, à Audrey Yatoni pour la préparation de cette émission. C'est la fin de Mardi Politique, réalisé par Mathias Golchani. Rendez-vous à tous la semaine prochaine, même lieu, même heure.